Après être devenu maire de Bressuire, Emmanuel Ménard est l'invité de notre média de rentrée, média que j'ai toujours plaisir à vous présenter, accompagné, comme il se doit, par mes confrères de la presse écrite, Dominique Guinfolo pour La Nouvelle République, Dominique Cadu pour Le Courrier de l'Ouest. Bonjour messieurs les journalistes.
Bonjour.
Bonjour madame le maire.
Bonjour.
Pas d'état de grâce pour vous, Emmanuel Ménard, qui dès les premiers jours de votre élection avait dû gérer une crise sanitaire sans précédent. Début de mandat marqué quelques mois plus tard, fin juillet, par un crime sordide, celui d'une vieille dame assassinée à son domicile bressuirais. Un drame qui a bouleversé la population, ébranlé la population.
Ah oui, 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 c'est sûr que le mandat ne démarrait pas sous les meilleurs auspices. Nous avons été confrontés tout d'abord à une organisation administrative, hein, vous venez d'en parler, une gestion entièrement à revoir au niveau des services publics, ce qui a été, là je dois le dire, très bien fait par les services, et je crois que nous avons pu ainsi répondre à de nombreuses questions auprès de la population, et cela continue encore aujourd'hui, bien sûr. Quant à l'actualité sécuritaire que nous avons vécue il y a maintenant un an, parce que c'était durant l'été dernier, eh bien, oui, ça a été dramatique. Ça a été dramatique tout d'abord par le meurtre de cette personne âgée qui a amené une émotion tout à fait justifiée, hein, par la population, mais qui a amené aussi certains doutes quant à la sécurité que nous pouvions avoir sur notre ville de Bressuire. Moi, je dis toujours, bien sûr, que cet événement, aussi terrible qu'il soit, ce sont des événements que nous pouvons retrouver dans d'autres villes, malheureusement. L'ensemble des villes de France est confronté, certaines fois, à des personnes déséquilibrées qui font des choses atroces, des actes atroces. Mais nous avons eu aussi, cet été-là, des violences répétées. Et il a fallu prendre des décisions, il a fallu remuer un peu, si je puis dire, les forces vives au niveau national, hein, que ce soit la justice, la gendarmerie, je ne dirais pas ça, parce que nous avons été fortement accompagnés par la gendarmerie, par les forces de la gendarmerie sur Bressuire. Mais c'est vrai que j'en ai appelé beaucoup au procureur, qui a su quand même à l'époque répondre, parce que à la fin de l'été ou à la rentrée dernière, nous avions arrêté les personnes qui sont aujourd'hui encore en prison. Et depuis, nous avons pris des décisions au niveau municipal avec, ça je l'ai déjà annoncé, des caméras supplémentaires, les heures des policiers qui ont évolué, etc., etc.
L'insécurité dans des villes à taille plus qu'humaine comme Bressuire, c'est une réalité aujourd'hui. Vous le diriez cela ?
C'est une réalité, mais c'est aussi lié sans doute au développement de notre ville. Ça, nous ne pouvons que nous en féliciter, hein. Nous avons toujours de plus en plus d'entreprises, nous avons toujours de plus en plus d'emplois. Bressuire, mais certains vous diraient justement que voilà, il y a des soucis de sécurité, mais d'autres vous parlent du bien vivre à Bressuire, du dynamisme de Bressuire. Et donc, Bressuire se développe. Alors forcément, quand Bressuire se développe, eh bien, nous avons des populations qui font de belles choses sur le territoire, et puis d'autres qui amènent une certaine forme de délinquance. Et il faut faire avec ces deux types de populations.
Et vous avez le sentiment d'être écouté, vous le disiez, alors par les forces de l'ordre. Il y avait le commandant Weber, hein, à l'époque, qui, je pense, était plutôt admiré, entre guillemets, hein, par les élus. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui était très écouté, hein. Je pense qu'il y avait une vraie relation avec lui. Mais est-ce que c'est une règle générale? Et est-ce que vous vous sentez aussi assez écouté par l'État, tout simplement, pour avoir après des moyens de mettre en place votre police municipale, par exemple, pour pallier à tous ces désagréments, ces incivilités dont vous parliez, et plus que ça, puisqu'en l'occurrence, là, il y a eu un crime.
Sur ce sujet-là, parce que je ne le dirai pas sur tous les sujets, mais sur ce sujet-là, j'étais fortement écoutée par les services de l'État, que ce soit directement par monsieur le préfet, hein, qui m'appelait pour me dire qu'ils allaient mettre des choses en place. On a eu des compagnies supplémentaires qui sont venues, vous vous rappelez, durant ce fameux été. Le procureur m'a donc, je vous le dis, bien écoutée, et effectivement, la gendarmerie avec le commandant Weber, mais là je joue avec Monsieur Fumolo, c'est exactement la même chose. Nous avons des liens directs et réguliers, et dès qu'il se passe quelque chose, je les contacte et ils répondent automatiquement présents. Donc oui, j'ai vraiment eu l'impression sur ce thème-là d'avoir été écouté et entendu.
Ça veut dire qu'il y a d'autres thèmes où l'État est moins à l'écoute ?
Mais il y a d'autres thèmes, mais Jean-Michel Bernier, mon prédécesseur, à la fin de son mandat, disait que c'est ce qui l'usait un petit peu. C'était notamment lors des dossiers administratifs que nous devons remplir quant au code de l'environnement, au niveau de l'aménagement des zones économiques, etc. Et là, il est vrai que moi, ça ne fait qu'un an et demi que je suis au début de mon mandat et je trouve que tout ça, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué, je l'ai dit au service de l'État, je l'ai dit à monsieur le préfet, où je trouve que par moment, ce n'est pas très aidant pour les porteurs de projets et les élus. Et il faut faire attention à cela parce qu'un jour, il n'y aura plus de dossiers à monter parce que les gens vont baisser les bras.
Dominique Cadu.
Je reviens à Bressuire. Est-ce que Bressuire a retrouvé son calme? Et en cette rentrée scolaire, est-ce que vous estimez que tout est fait pour que les jeunes soient en sécurité à Bressuire?
Alors, en tous les cas, nous nous donnons les moyens de tout faire pour que cela soit le cas. Mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a plus de délinquance à Bressuire. Nous avons eu un été beaucoup plus calme que l'été dernier, et c'est heureux. Hein. Je peux vous dire que j'ai pris une quinzaine de jours de vacances, mais je n'étais pas très tranquille à ce niveau-là. Hein. J'avais qu'une envie, c'est qu'à mon retour, ou surtout de ne pas être, non pas dérangée, c'est pas le problème d'être dérangée, mais de ne pas avoir un coup de fil qui m'annonce une catastrophe ou quelque chose. Donc non, l'été s'est plutôt bien passé. Tout le monde a bien compris qu'il fallait faire ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait prendre les choses en main. C'est ce que nous essayons de faire. Nous nous donnons les moyens. Bien sûr, tout n'est pas terminé, hein, mais comme je le disais au début de notre entretien, c'est national aussi tout ça. Hein, il y a quand même une violence. Il faut que l'État, là, au sommet de l'État, fasse quelque chose au niveau judiciaire, policier. Vous voyez bien, là, alors évidemment, c'est dans des proportions encore plus importantes ce qui se passe à Marseille. Donc, nous ne sommes pas Marseille, nous sommes encore une ville moyenne où il fait très bon vivre, une ville entre ville et ruralité, justement. Donc, nous ne connaissons pas cela, mais nous connaissons quand même déjà des troubles. Et donc, il faut être à la fois sévère et pédagogue. Et il faut que l'État nous en donne les moyens.
Bressuire n'est pas Marseille, certes, mais par exemple, le trafic des stupéfiants, ça deal autour des établissements scolaires bressuirais, ici et ailleurs. C'est une réalité au quotidien. Cela, comment... Alors, la vigilance s'impose, mais ça ne suffit pas.
Oui, alors ça, c'est vrai aussi. Si, je ne vais pas vous dire que c'est pas vrai, mais moi, vous savez, quand j'étais lycéenne, ça existait aussi. Hein, nous sommes beaucoup plus au courant de ce qui se passe. Hein. Le cannabis existait déjà dans les lycées. Et j'étais pas étudiante il y a deux jours. Hein, donc, mais
le phénomène
s'est amplifié. C'est surtout que on le retrouve dans certains endroits qu'il est. Où nous n'étions pas habitués, c'est-à-dire presque à la vue de tous, si je puis dire.
À la vue de tous.
Et que les enquêtes sont trop longues, en fait. Hein, qu'on ne peut pas arrêter les personnes, enfin, à mon sens, hein, c'est un petit peu le problème. Quand on évoque cela auprès de la gendarmerie, ils sont au courant, l'enquête est en cours, ils le font, certaines fois ils arrêtent les personnes, mais il faut que le dossier soit long comme le bras pour qu'on puisse intercepter ces personnes, les amener devant le tribunal et faire preuve de sévérité avec elles.
Donc là, en tant que maire, vous êtes désabusé?
C'est quand même problématique. Ça, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'on n'agit pas suffisamment rapidement. C'est pour ça que je dis que c'est au niveau national le problème. Hein, parce que nous, localement, mais je ne parle pas que des services municipaux, hein, je le redis, la gendarmerie aussi, tout le monde... fait ce qu'il faut, il me semble. Mais après, il faut que les moyens suivent derrière, et notamment judiciaire, ça c'est sûr.
Vous parliez de vidéoprotection. Depuis qu'elle est en place, est-ce qu'elle a donné des résultats?
Ah oui. Ah oui, ça je l'affirme. Je l'affirme parce qu'en plus, je le dis souvent, je suis bien placée pour en parler parce que je n'étais pas franchement favorable au début des discussions. Hein. C'était des discussions très longues dans les mandats précédents. Et comme d'autres, je disais, on va déplacer le phénomène, ça ne va pas aboutir. Et en fait, grâce aux caméras, quand les faits se passent devant la caméra, bien sûr, 80% des affaires sont résolues. On identifie 80% des personnes qui font des dégâts. Donc, du coup, on peut, nous et la gendarmerie, bien évidemment, continuer l'enquête, lancer la procédure.
Vous avez combien de caméras en prévision ?
Alors là, nous en avons encore en plus sur le quartier de la gare, hein, où il va y en avoir 6. Et puis après, je crois que c'est une douzaine encore qui vont évoluer dans le centre-ville l'année prochaine, enfin dans la ville.
Encore en plus, oui.
Ça fera un total de
Je ne vais pas vous dire de bêtises, je dirais une trentaine. Hein.
Donc c'est une des solutions, vous estimez, un des moyens de votre police municipale pour
c'est une
réagir.
Des solutions. Oui, moi je pense que c'est une des solutions. Alors on n'est pas tout à fait dans la prévention, vu qu'effectivement il y a des actes qui se passent devant ces caméras. Mais on est devant de la petite délinquance. Donc si on met des choses en œuvre après, quand les personnes sont prises devant cette délinquance, eh bien après... nous pouvons enrayer le phénomène, c'est ce qu'il faut faire.
De quel autre moyen vous aimeriez disposer pour mieux avancer dans ce domaine ?
Moi,
pour mieux pallier hein.
C'est ce que je vous disais, c'est surtout au niveau judiciaire, je pense, parce que les personnes sont arrêtées, mais ressortent trop tôt. Je parle de la garde à vue, notamment. Hein. La gendarmerie prend les personnes, les met en garde à vue. Le lendemain, certaines fois, elles ressortent parce que le dossier n'est pas assez fort. Alors, il faut que l'État... Les solutions ne sont pas toujours dans les prisons, hein. c'est pas ce que je veux dire, mais il faut que l'État mette les moyens. Alors, est-ce que c'est justement au niveau de la réintégration des personnes, la jeunesse aussi, hein. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés et qui sont souvent seuls dans les rues le soir, sans les parents pour leur donner une éducation un peu stricte, on va dire, pour les faire rentrer dans le rang. Et donc ces jeunes, eh bien, petit à petit, une petite délinquance, une deuxième petite délinquance, et c'est difficile auprès des mineurs de trouver une justice. Donc là, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des établissements qui les reçoivent, qui leur inculquent certaines valeurs du bien vivre ensemble.
On va parler maintenant de la crise sanitaire, puisque ça a été votre lot quotidien depuis votre élection, avec ces confinements à répétition. Alors là, il y a eu vraiment tout à gérer.
Oui, il y a eu tout à gérer. Et puis, là, moi, je le vis un peu comme la population en général. Hein. C'est qu'on a eu des allers-retours dans les décisions. Des décisions pas toujours faciles à comprendre. Hein. Je ne critique pas les décisions qui ont été prises. Hein. Pas du tout. Hein. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, moi, si j'avais eu à gérer tout ça. Donc, ce n'est pas le problème. Mais c'est que certaines fois, les décisions, concrètement, n'étaient pas faciles à mettre en œuvre. Quand on a des décisions qui viennent de si haut et puis qu'on se retrouve, eh bien... avec une association de danse, de foot, et les vestiaires, et le pass sanitaire, mais à l'extérieur, alors là, par exemple, en ce moment, on regarde un match à la télé, on n'a pas le masque, mais chez nous, on doit encore mettre le masque, donc c'est peu compréhensible et du coup certaines fois peu audible aussi. Hein. Donc ça c'est difficile. Tant bien même qu'aujourd'hui, moi quand les Bressurais m'interpellent pour me dire alors là, Madame le maire, est-ce qu'on a droit de faire ça? Je renvoie les personnes à la maison des associations parce que je n'ai plus toutes les réponses. Même moi qui lis pourtant les textes, etc., c'est compliqué.
Et c'est exactement le cas avec le masque pour les établissements scolaires en ce moment, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. En Deux-Sèvres, on doit mettre le masque à la récré. Par exemple, dans d'autres départements. Typiquement, qu'est-ce que vous répondez aux parents qui se disent pourquoi ? Alors, décision préfectorale, allez-vous me répondre ?
Je l'ai dit au DAZEN, au directeur académique, hein, lorsque nous avons eu la réunion. Je lui ai dit que je n'étais pas du tout favorable à cette décision. Je le dis encore. Nous avons mis du temps. Nous avons été le dernier département à enlever le masque à l'extérieur, alors que nous ne sommes quand même pas une ville touristique. enfin si, notre tourisme se développe, mais quand même, nous ne sommes pas La Rochelle, hein.
Et le taux d'incidence en Deux-Sèvres n'est pas plus
élevé qu'ailleurs. Nous avons attendu la décision nationale pour enlever le masque à l'extérieur dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, nous l'avons. Le préfet ne l'a quand même pas remis, même lorsque l'on a remonté, parce qu'en plus, le masque à l'extérieur, on sait qu'il est moins... Enfin, c'est pas qu'il est moins efficace, il y a moins de contamination à l'extérieur. Et là, ailleurs, au niveau national, on ne le met pas dans les cours de récréation. Et chez nous, on prend encore la décision, alors que c'est quand même très anxiogène pour les jeunes, ils vont retrouver leur rentrée. La décision a été prise de le mettre dans les cours de récréation. Nous avons, comme tous les 15 jours, une réunion avec le préfet. Je l'avais dit au directeur académique, je lui dirai ce soir que je ne suis pas d'accord avec cette option-là.
Donc vous interpellez à chaque fois que
ce soit le DASEN ou
le préfet.
Ah oui, je le dis. Oui, je le dis. Après, vous voyez bien que je ne suis pas forcément écoutée ou on va dire entendue, mais je le dis.
Vous êtes la seule dans ce cas ou d'autres ont fait connaître leur opposition?
Oui, ça, alors pas forcément sur ce sujet-là, mais nous avons un dialogue là très franc et sincère, donc avec le préfet. Nous avons une réunion... je vous le dis, c'était tous les 8 jours quand vraiment c'était la crise était au maximum. Et là, c'est tous les 15 jours et le jeudi soir. Et voilà, nous sommes chaque président d'agglo ou maire de grande ville, de plus grande ville, dit son opinion. Et certaines fois, c'est noté et validé. D'autres fois, il le note, mais il maintient sa position. Voilà.
On parlait de rentrée scolaire dans les 14 écoles publiques. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des cas contacts
Alors, il y a eu... Alors, je peux vous dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas rentrés parce qu'il y avait eu des cas parce qu'ils étaient positifs au Covid. Donc il y a quand même encore des cas sur Bressuire. À ma connaissance, après, il y a eu une classe où il y a eu un cas après la rentrée. Voilà.
Un cas contact ou un cas...
Un cas contact. Mais dès qu'il y a un cas contact, on ferme une classe. Donc,
ça nous amène tout droit à la vaccination. Vous êtes pro-vaccin. C'est une évidence pour vous?
Moi, je suis vaccinée, ça c'est sûr. Je ne dirais pas pro-vaccin. Je trouve que cette fichue maladie, quand même, a amené une fracture supplémentaire, parce que malheureusement, nous en avions d'autres dans notre pays. Et voilà, on oppose des populations... même dans les familles. Moi, je connais des familles où c'est compliqué parce que certains sont vaccinés, d'autres ne le souhaitent pas, certains sont pour le pass, d'autres le refusent. Et ça amène des conflits qui pour moi, ne devraient pas exister.
Et par rapport à votre personnel, est-ce que vous l'avez incité fortement à...
Ah, moi, j'ai plaidé, oui, pour la vaccination. Je vous le dis, je suis vaccinée. On vit dans une société, on ne vit pas tout seul dans son petit cocon, on vit dans une société, donc il faut vivre pour le bien-être de tous et non pas uniquement de soi. Donc voilà.
Est-ce que le problème ne vient pas justement qu'on n'arrive plus à se parler? On a vu ça sur les conflits sociaux auparavant, sur les gilets jaunes, maintenant c'est sur le vaccin. On n'arrive plus à discuter. Les gens ont une opinion, ils n'en émordent pas, impossible de discuter, tout le monde se braque.
Et puis c'est sûr, alors il y a ça, je suis entièrement d'accord avec vous, on n'arrive plus à discuter. Moi j'ai discuté avec des gens qui n'étaient pas favorables à la vaccination, mais qui avaient envie de discuter avec moi. Ça s'est très bien passé. Je ne sais pas s'ils ont évolué. J'ai prévu de les revoir parce que c'est des gens que je côtoie et de leur demander s'ils ont évolué avec tout ce qui s'est passé. Mais voilà, le problème, il est là. Et puis l'autre souci, et pourtant moi aussi je suis sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même, on discute plus, mais qu'est-ce qu'on écrit? On écrit sur ses pages Facebook, sur ses comptes Twitter, et puis...
Sous-entendu, qu'est-ce qu'on écrit comme bêtises?
Un peu quand même, tout le monde n'écrit pas que des bêtises, et moi je suis pour le droit d'expression, mais il faut penser que quand on écrit, on est lu, que ça reste, qu'on amène une opinion aux yeux de tous. Donc on porte une responsabilité sur son écrit quand même.
On vous sent tolérante hein, sur le sujet de la vaccination, du pass sanitaire, vous avez le même raisonnement. Il y a les manifestations aujourd'hui en France anti-pass sanitaire. Est-ce que c'est vraiment une atteinte au droit
Non, moi, pour moi, ce n'est pas une atteinte au droit. Quand vous inscrivez...
Privation de liberté, j'entendais. Hein.
Oui, bien sûr. Quand vous inscrivez votre enfant à l'école, on vous demande le carnet de vaccination. Ça ne choque personne. Quand vous allez en vacances à l'étranger, dans certains pays, on vous oblige à la vaccination, on vous oblige à montrer votre certificat de vaccination. Ça ne choque personne. Quand on vous arrête sur la route pour un contrôle, vous montrez votre permis de conduire, ça ne choque personne. Alors là, moi, là, j'avoue que je ne vais pas dire que je suis intolérante parce que je peux discuter aussi. Mais là, j'en ai moins rencontré des gens qui étaient défavorables au pass sanitaire. J'avoue que je ne comprends pas trop. Dans notre vie, là encore, nous sommes en société. Nous avons, alors on peut appeler ça une contrainte, hein, oui, de montrer, ça dure 2 secondes de montrer son téléphone, hein, ça dure 2 secondes. Et en plus, jusque-là, on pouvait également faire le test...
Le PCR.
Le test PCR. Donc, là, j'ai du mal à comprendre.
L'économie bressuirée, est-ce qu'elle a supporté justement le choc de cette crise sanitaire, ces confinements à répétition?
Oui, ça c'est une joie, si je puis dire, hein, mais nous étions très inquiets. Là, je parle même au niveau de l'agglo, hein, parce que je suis vice-présidente chargée de l'économie, et c'est vrai que quand tout a démarré, là nous nous sommes dit on va vivre des catastrophes économiques, hein, donc pour les entreprises et également pour les commerces. Hein, en 2020, tout s'arrêtait quand même. Très vite, on a été rassurés au niveau des entreprises. Après, c'était beaucoup plus inquiétant pour les commerces, les restaurants, le monde de la culture. Donc, l'agglo, là notamment, a mis en œuvre des aides qui ont été très appréciées parce que nous avons reçu beaucoup de courriers dans ce sens, même si ça allait jusqu'à 5 000 euros par dossier maximum. Donc, ça ne sauvait pas une entreprise. Mais moralement, je peux vous dire que ça a été très important pour les personnes qui étaient en détresse. Et puis aujourd'hui encore, alors là, c'est la ville de Bressuire, et là, alors là, je le dis parce que c'est vraiment une grande joie, là, c'est le bon terme. Nous avons mis en place, vous savez, l'opération Ticket Commerçant, où donc nous offrons aux Bressuirais ou autres le fait d'avoir des bons d'achat pour les magasins. Et donc sur le mois de septembre, nous avons lancé l'opération le 1er, le 2, tous les bons étaient téléchargés. Donc voilà, ça veut dire que les gens vont venir dans les commerces bressuirais avec 25 euros à chaque fois pour dépenser sur les commerces bressuirais qui sont inscrits.
On a parlé justement au moment du premier confinement, on parlait du monde d'avant, du monde d'après. Est-ce que vous avez espoir que vraiment le monde d'après soit différent du monde d'avant?
Je crois que ça ne va pas bouleverser le monde. Je ne crois pas, parce que...
Enfin, du moins, sur
parce
ce...
Parce que
sur
là encore, les personnes... je suis peut-être de la même veine, hein, mais se centrent trop sur elles-mêmes. On revient toujours à l'individualisme. On pense à notre petit cocon. On a du mal à penser société, à penser bien public. Et donc, alors il y a certaines habitudes qui ont changé. Hein. Je vois quand même, moi je l'ai vu à mon niveau bressuirais, au niveau du marché par exemple. Les gens commencent à consommer localement beaucoup plus.
Ça perdure.
Mais pour le moment, ça perdure. Les gens ont pris un petit peu de nouvelles habitudes quand même.
Quelle est votre vision de Bressuire de demain?
Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est c'est que Bressuire, ce soit... il y a évidemment tout ce qui peut être urbain, mais en dehors du développement économique et urbain que pourrait connaître notre ville, vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est que les gens soient heureux d'y vivre. On dit souvent heureux et fier. Alors, fier, c'est encore mieux, mais heureux d'y vivre. Moi, j'ai vu des personnes, là, une nouvelle recrue à Bressuire, là, notamment à la ville que j'ai rencontrée hier, et puis qui m'a dit, nous n'étions pas du tout d'ici, mon conjoint, moi j'ai cherché du travail, mon conjoint m'a rejoint et en cherche maintenant, mais on se sent bien sur Bressuire. Il y a toutes les activités qu'on peut rêver, il y a du travail, nous sommes dans un milieu où la campagne est encore quand même bien présente. Nous avons des espaces de randonnée très agréables, du patrimoine quand même. Et en plus, on n'est pas loin de la mer, je le dis tout le temps. La mobilité est relativement facile, donc il fait bon vivre à Bressuire.
Dans les grands chantiers de Bressuire, d'aujourd'hui et de demain, quelles sont vos priorités ?
Alors, les grands chantiers d'aujourd'hui, c'est quand même le chantier de la gare qui va ouvrir ses portes. Alors d'ailleurs, je vais vous donner un scoop, parce que la date d'inauguration de la Cité de la Jeunesse des Métiers et puis de la plateforme d'échange multimodal est arrêtée. Donc ce sera le 5 novembre.
Avec un ministre ?
Alors voilà, donc non, ce ne sera pas un ministre. Nous aurons, alors sauf évidemment, j'ai demandé d'ailleurs à notre sénateur si je pouvais le dire aujourd'hui, hein, parce que je voulais vous garder la primeur. Il m'a dit oui, mais il m'a dit, tu dis bien que c'est si évidemment il n'y a pas d'événements qui peuvent contrarier l'agenda. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir le président du Sénat, Gérard Larcher, qu'il sera donc à l'inauguration le 5 novembre à 11h de ce quartier qui, pour moi, transforme quand même la ville de Bressuire. Voilà. Donc c'est une réhabilitation totale d'un quartier qui va au-delà de la gare et de la Cité de la Jeunesse. Hein. C'est tout le quartier Marolo qui va se transformer derrière. Hein.
Dominique Guénifolo.
Jean-Michel Bernier disait récemment ses interrogations sur la façon dont on peut envisager l'avenir justement après cette crise. On n'en est pas sorti d'ailleurs. Est-ce que le télétravail peut, à votre sentiment, être une chance, un gisement de développement pour des villes et des territoires comme Bressuire et le Bocage, sur l'aménagement du territoire, sur la façon dont sont perçus ces territoires de citadins, par exemple?
Alors, le télétravail, tout dépend comme il est fait, c'est toujours pareil. Hein. Il faut trouver la juste mesure, mais c'est vrai que pour une ville comme la nôtre, vous pouvez avoir certaines personnes. On le voit. Alors déjà, ils vont quand même au départ plus dans les métropoles. Hein. Nantes se développe encore beaucoup grâce à ça. Angers, de la même façon. Parce que les gens ne souhaitent plus vivre sur Paris, par exemple, et veulent trouver une vie plus tranquille, si je puis dire. Donc nous, on a un petit peu cet effet-là aussi. Et d'ailleurs, on l'évoquait récemment, il faudrait qu'à Bressuire, notamment au niveau des investissements, mais que ce soit privé ou public, on ait des espaces de coworking plus nombreux aussi pour accueillir ces personnes qui souhaitent télétravailler, qui ne veulent pas forcément d'ailleurs télétravailler chez elles, qui veulent se retrouver dans un lieu plus professionnel. Donc il va falloir là aussi innover ou suivre au moins le mouvement pour être prêt à accueillir ces personnes, ça c'est sûr.
Oui, mais il y a quand même un fossé, comme vous disiez, entre Angers, Nantes et Bressuire. On a eu des expériences d'espace de coworking qui n'ont pas duré malheureusement suffisamment longtemps pour durer jusqu'à la crise sanitaire.
Oui, parce que ça, peut-être que la crise sanitaire va changer les choses quand même. Hein. Là, vous voyez des personnes... alors, certaines personnes n'ont pas du tout apprécié le télétravail et donc étaient... là, du coup, moi, je parle pour la mairie et l'agglo, et donc souhaitaient revenir rapidement. D'autres ont beaucoup apprécié le télétravail. Et il faut l'intégrer maintenant dans les différentes structures, qu'elles soient privées ou publiques, hein, parce que ça, je pense que ça va être un tournant. Hein. Il y a des entreprises, alors pas chez nous, là, mais dans certaines villes, qui vendent leurs immeubles parce qu'ils passent en télétravail. Ça fonctionne. Moi, mon fils qui était en stage à l'étranger, il a fait son stage à l'étranger à Londres, à Bressuire. Tout s'est passé en télétravail et ça a très bien fonctionné.
Travail, les mains d'œuvre, puisqu'on sait qu'à Bressuire et en Bocage, justement, les chefs d'entreprise ont un vrai problème aujourd'hui pour recruter. Est-ce que la ville, l'agglo, a des leviers pour essayer de les aider dans ce domaine qui est préoccupant, hein?
Oui, alors c'est préoccupant. Là aussi, nous donnons tous les moyens de le faire. Moi, je crois beaucoup en la formation. Donc, je me dis que nous avons des jeunes qui n'ont pas les formations forcément. Alors, nous avons des très, très bonnes formations sur Bressuire et à chaque fois, ça paye, hein, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres leviers à faire et à prendre. Donc, nous travaillons avec le service éco de l'agglo sur ce sujet. Autour, pourquoi pas, d'une école de production, par exemple, des choses comme ça. J'avais pensé aussi au campus connecté, mais l'appel à projet ne ressort pas pour le moment. Mais moi, je crois à ça. Ensuite, mais vous avez le job dating, par exemple, au niveau de l'agglo. Nous mettons ça aussi en œuvre. Et donc, avec une communication élargie, nous essayons d'attirer d'autres personnes pour venir travailler dans nos entreprises. Et puis, il y a tout un travail que l'agglo va continuer à mener, c'est autour du marketing territorial. Il faut qu'on sorte de nos murs pour, là encore, montrer le bien-vivre sur l'agglo de B, les belles entreprises que nous avons et que les personnes viennent chez nous et y travaillent.
C'est-à-dire recruter des gens d'autres régions.
Ah oui, là, nous sommes obligés. Nous avons 5% de chômage aujourd'hui dans le Bocage. C'est quasiment le plein emploi. Hein. Vous avez des personnes pour des... non pas parce qu'elles ne veulent pas travailler, hein, mais pour des questions de difficultés de santé, pour des questions de mobilité. Donc là aussi, on a beaucoup de travail à faire pour amener les personnes vers une mobilité, pour pouvoir les amener au travail, vous voyez.
Alors on a 350 à peu près demandes offres d'emploi actuellement sur le Bocage. Comment pouvez-vous attirer les gens? Est-ce que, comme pour les médecins qui manquent, par exemple, ou d'autres activités médicales, est-ce qu'il faut que les municipalités et les agglos aident financièrement ces gens-là à venir s'installer?
Aider, enfin, moi, je ne me vois pas quand même à chaque personne qui viendrait travailler, lui payer son loyer. Là, ce n'est pas le rôle de la ville. Par contre, je vous parlais de marketing territorial. Moi, il y avait une idée qu'avait fait une autre région et qui m'avait bien plu, c'est-à-dire inviter, par exemple, tout un week-end des personnes de l'extérieur. Je me rappelle plus, ouais. Dominique, mais à venir sur le territoire, leur montrer ce qu'on a sur notre territoire, vous leur faites rencontrer des chefs d'entreprise, le lien se noue. On avait fait ça à plus petite échelle quand nous étions allés à la maison Nouvelle-Aquitaine là sur Paris. Bon, le nombre de visites n'avait pas été énorme, mais il y a quand même deux couples qui, du coup, après avoir rencontré la maison Nouvelle-Aquitaine, sont venus sur le Bressuiret, ont aimé et ils sont toujours. Donc bon, donc faudrait faire ça en fait à plus grande échelle, quoi, tout simplement.
Est-ce qu'aujourd'hui les relations entre les chefs d'entreprise et justement les élus que vous êtes sont assez importantes pour mener ensemble ce type de projet? Est-ce que vous vous entendez tous assez bien pour aller de l'avant et peut-être profiter de cette crise, hein, pour modifier les comportements des uns et des autres?
Ah oui, alors là je le dis sans réserve. Enfin, j'espère qu'il dirait la même chose, mais nous avons une très très bonne entente avec les chefs d'entreprise.
Parce que vous-même, être chef d'entreprise, avez pris la mesure de cette nécessité, parce qu'il y a eu tout un moment où entre le public et le privé, il y avait quand même un vrai gouffre.
Oui, mais c'est pas lié qu'à moi. Hein. Je le redis, hein, le service économique de l'agglo est très performant, hein, très à l'écoute des entreprises, très réactif. Un chef d'entreprise, il a besoin, moi j'ai besoin d'un bâtiment, d'un terrain, est-ce que vous pouvez me proposer des choses? Donc nous avons tout un éventail immobilier, que ce soit public ou privé, hein, nous distribuons, le chef d'entreprise, nous mettons en contact, le chef d'entreprise choisit. très, de façon très réactive. Et ça, c'est très apprécié, très très apprécié.
Le préfet a sollicité les maires du département afin de dresser une liste des logements ou des réfugiés afghans pour être accueillis dans les prochaines semaines. Est-ce que Bressuire compte participer à cette demande?
Mais là, c'est pas une question de je compte recevoir des Afghans ou pas. C'est que nous n'avons pas de logement. Nous n'en avons pas. Tous nos logements qui sont qualifiés pour les réfugiés sont déjà occupés. Donc, je ne peux pas construire comme ça des logements pour accueillir des personnes. S'il y a des personnes à accueillir, notre CCAS sera là pour les aider au niveau alimentaire, au niveau aide sociale. Mais nous n'avons pas de logement, donc on ne peut pas donner une liste comme ça. Ça ne s'invente pas.
Sinon, pour vous, ce serait quand même un devoir moral, si ce n'est un devoir légal.
Mais on ne peut quand même pas rester insensible à ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr. Moi, humainement, je suis forcément touchée et j'ai forcément l'envie d'aider. En revanche, Bressuire a déjà, et ça c'est clair, une population importante, une nouvelle population, comme on dit souvent dans le Bressuirais, et qu'il faut intégrer à notre vie bressuraise. Donc moi, que ce soit...
Qu'il l'est ou pas intégré ?
En grande partie, mais... C'est une population qui bouge aussi, donc c'est un éternel recommencement. C'est quelque chose dont nous nous occupons au quotidien.
Vous disiez, on n'a pas de logement disponible. Est-ce qu'on ne retrouve pas là le problème de logements sociaux que traîne Bressuire et le Bocage depuis plusieurs années déjà, voire des décennies?
Non, parce qu'on en a des logements sociaux. Moi, je le redis à chaque fois. L'erreur est que les logements que la loi SRU englobent les communes déléguées qui sont rurales et qui ne verront jamais, enfin, ou pour certaines, oui, comme à Terve, Saint-Sauveur, les plus près, mais à Noirlieu, aujourd'hui, les bailleurs sociaux ne veulent pas, c'est trop éloigné de la ville. Donc, c'est nous qui faisons des lotissements, donc c'est pas des logements sociaux. Et pourtant, ils sont comptabilisés, ces communes sont comptabilisées. Donc, il est là notre déficit. Hein. Pour moi, c'est une erreur de calcul. Nous avons des logements sociaux sur Bressuire. Alors, nous tombons dans cette loi SRU, donc avec un déficit qui, pour moi, est tronqué, mais nous assumons et nous avons quand même mis en place un programme de construction de logements sociaux pour y répondre.
On est obligé de parler désormais du réchauffement de la planète. Ça s'accélère avec des bouleversements annoncés, si ce n'est des désastres. Est-ce que vous, les élus, êtes sommés aujourd'hui de réagir? Est-ce que vous avez cette fibre-là en vous parce qu'à un moment, il faut prendre conscience de cette réalité?
Ah oui, ça, l'équipe qui m'entoure, nous sommes tous complètement en accord avec ce que vous venez de dire. Nous ne pouvons plus faire comme nous faisions il y a 30 ans. C'est plus possible. Nous en sommes bien conscients. Dans les programmes que nous avons, je pense par exemple à l'ancien quartier Supervielle, du collège Supervielle, pardon, c'est quelque chose que nous voulons mettre en avant, c'est-à-dire à chaque fois replacer le vert, la nature dans notre ville, même si pourtant nous sommes dans un milieu rural et donc campagnard. Eh bien non, on veut remettre du vert, de la nature dans notre cœur de ville. Et puis bien sûr, nous faisons à chaque bâtiment, construction, nous pensons d'abord réhabilitation, et puis nous voulons nous mettons en œuvre tout ce qui est au niveau de l'énergie. Tout est pensé à chaque fois en fonction de ce que nous consommons au niveau de l'énergie.
Cette adaptation au climat, c'est pas seulement d'ailleurs remettre du vert ou adapter l'habitat, c'est aussi revoir les habitudes. Je pense au transport notamment. On est dans un pays, dans un territoire clairement où on ne peut pas vivre pour l'instant sans voiture, pratiquement on ne peut pas travailler. Donc est-ce que la ville, l'agglo, peuvent faire ont des leviers là-dessus?
Ah oui, oui, l'agglo et la ville, ils travaillent. Alors l'agglo a fait donc un schéma cyclable, là, vous savez, donc là il. Tout va être fait pour les, qu'il y ait une mobilité plus douce. Mais là, c'est pareil, on y arrivera, on arrivera à diminuer l'impact de la voiture. Mais c'est vrai que ça me semble compliqué quand même. Quand vous êtes de Noirlieu, justement, et que vous travaillez à Montcoutant, pour le moment, il semble difficile d'y aller à vélo tous les jours, si vous êtes en 2-8, enfin voilà. Donc la voiture est quand même encore présente chez nous, et moi je ne suis pas favorable à interdire la voiture. Donc je voudrais, et avec mon équipe municipale, nous voudrions amener une mobilité plus douce pour les vélos, pour les piétons aussi, hein. Il n'y a pas que les vélos, les piétons ont de plus en plus besoin de se sentir en sécurité, donc il faut penser à tout le monde.
Certains pourraient reprocher à ce discours, à cette méthode, on va dire, douce de développement des mobilités douces, de ne pas répondre à l'urgence, justement, alors qu'on doit limiter la hausse des températures à très courte échéance. Est-ce que le virage, est-ce qu'il ne peut pas être plus rapide? Voilà.
Même si les mesures sont particulièrement contraignantes.
Oui, ce qu'il y a, c'est que dans une ville comme la nôtre, moi, je suis obligée de... J'ai été élue par des habitants de Bressuire, et c'est pas... Je vous dis pas ça dans la vision électorale, je vous dis ça dans la vision je dois faire pour mes habitants. Et donc, faire pour mes habitants, c'est tenir compte aussi de leur vie, de leurs contraintes, de ce qu'ils ressentent. Nous sommes justement dans une ville moyenne, donc je vois suffisamment, je suis suffisamment en contact avec le terrain pour savoir qu'on ne peut pas balayer tout du jour au lendemain. Quand vous voyez justement la crise sanitaire, quand il y a des contraintes, ce que ça a imposé, certaines fois comme souffrance réelle aux personnes quand il y avait le confinement, etc., vous avez bien vu tout ça. Donc je ne peux pas balayer tout ça d'un revers de main. Et pour le coup... Donc ça pourrait peut-être être un effet de manche, mais pour le coup, il y a aussi au niveau national, voire international, hein, des grosses structures, qui on pourrait taper un petit peu sur les doigts plus fort, et qui auraient sans doute un impact sur l'environnement important aussi. Hein. Et nous, du coup, nous pourrions, je ne vais pas vous dire prendre notre temps, mais faire dans la mesure pour que les gens changent leurs habitudes, comme vous le dites, en douceur.
On parlait de la voie douce. Est-ce qu'une passerelle peut être envisagée, qui est très demandée par rapport à cette voie verte, justement, entre Neuilly-les-Aubiers et la gare de
Bressuire? Nous y travaillons, hein, avec le département. Hein, donc l'étude est même lancée. Hein, on doit avoir le retour dans le mois de septembre. Vous faites bien de me le redire.
Et quelle échéance,
Après, tout dépendra de l'étude, de ce que ça va nous donner au niveau montant, parce qu'après, il faut voir la participation des uns et les autres. C'est touristique et économique à la fois, donc l'agglo, c'est important pour elle, c'est important pour la ville de Bressuire, et puis la voie verte, c'est quand même le département. Donc voilà, vous avez trois partenaires qui vont devoir discuter ensemble pour financer l'opération dont nous n'avons pas encore l'étude. Donc il faut d'abord que nous ayons ce résultat.
Il s'agissait que d'une étude de faisabilité pour l'instant, c'est-à-dire c'est pour savoir si on va même pouvoir le faire, tout simplement.
Mais on aura les montants aussi. Mmh. Hein, on aura les montants aussi. Donc ce sera étude faisabilité technique et financière.
Est-ce qu'Emmanuel Ménard, vous vous sentez proche des Verts, des écologistes en règle générale?
Moi, je me sens proche de l'environnement. Je vous le redis, hein, on peut plus vivre comme c'était, mais je n'ai... Alors après, c'est un discours déjà entendu, ça, mais c'est quand même un peu vrai. Pourquoi avoir un parti uniquement lié à ça? Ça devrait être partout aujourd'hui. Ça devrait être dans tous les partis aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un peu récupéré par tous les partis, justement. Donc, oui, moi, j'aime l'écologie, j'aime le monde de l'entreprise, j'aime le social, voilà. J'ai envie de travailler avec tout le monde.
Du coup, vous vous sentez plus à droite ou à gauche? Mais je crois vous étiez, vous, vous étiez présenté sans étiquette. Hein.
Oui, j'y suis toujours. Je privilégie toujours la personne.
Est-ce que c'est pas un effet de mode dans les élus actuels de dire je suis sans étiquette?
Ben, peut-être dans les élus locaux, ça c'est possible, mais parce que c'est ça la réalité du terrain. Vous savez, quand vous êtes en bureau municipal et que vous avez des dossiers à traiter, eh bien vous avez des gens de sensibilité différente. Il faut quand même bien réussir à faire avancer la ville. Et si vous campez sur des positions qui sont, qui peuvent certaines fois sembler, je vais vous dire, des extrêmes, hein, anti-patron ou au contraire anti-personnes issues de l'immigration, on n'y arrivera jamais, quoi. On n'y arrivera jamais. Non, moi, j'ai envie que tout le monde autour de la table, moi, je fais un pas vers vous. On a besoin de ça dans notre ville. On y va. C'est ça qui compte pour moi et pour l'ensemble de mes collègues.
On peut aussi penser qu'aujourd'hui, un élu a moins de risques de ne pas se, pour son électorat, de ne pas se prévaloir d'un parti. C'est un peu quand même la tendance.
Ben, je ne sais pas, parce que vous savez, il y a des élus. Regardez là, Jérôme, collègue de Niort, Jérôme Baloge, oui. Il s'est montré avec l'ancien Premier ministre. Je ne crois pas que son équipe a été choquée à outrance. Il est libre. Bernard Pénault est quelqu'un d'un autre bord qui est quand même plus une sensibilité de gauche, mais il a voulu montrer lui aussi que pour sa ville, il était prêt à rassembler et que si on veut avancer, il faut travailler ensemble.
Ouais, clairement, c'est un changement de paradigme quelque part. Hein.
Oui, sans doute.
Est-ce qu'on n'en revient pas au problème dont on parlait tout à l'heure, l'impossibilité à se parler à partir du moment où on affiche quelque chose, une opinion, est-ce qu'un élu peut encore afficher ses opinions, afficher son bord politique pour rester éligible, entre guillemets
Mais le bord politique, ça n'a pas d'importance. Afficher ses opinions, ça en a. Moi, je vous affiche mes opinions. Je vous dis ce que je pense. Et j'ai certaines fois, j'ai une opinion très pro-entreprise, c'est sûr. Bon, ben, ceux qui n'aiment pas les entreprises, ils doivent pas être d'accord avec moi à ce moment-là. Mais j'ai une opinion aussi où je dis que nous avons, si je reprends deux thèmes complètement différents, des populations étrangères qui sont arrivées chez nous pour travailler, qu'il faut intégrer. Ben, je le dis aussi. Donc j'ai bien des opinions. Mais quel est l'intérêt pour moi de vous dire je suis plus proche de tel parti? Moi, j'ai voté pour des partis différents dans ma vie. Hein. Quand je suis dans l'isoloir, je vote pour la personne et pour le programme qu'elle amène et qui fait que moi je me dis ah là ça me ressemble vraiment beaucoup, beaucoup plus.
Quelles sont vos relations justement avec les parlementaires? Vous avez parlé du sénateur Philippe Mouillet tout à l'heure, avec le député Jean-Marie Fievé.
J'ai de bonnes relations avec les parlementaires. Hein. Philippe Mouillet, oui, je l'ai eu récemment. C'est quelqu'un qui est très proche de ses élus locaux. Hein. Il fait vraiment un travail efficace sur le territoire. Il est à l'écoute. Hein. Jean-Marie Fievé, je le vois régulièrement. On a moins de discussions ensemble. On a eu à travailler sur moins de dossiers ensemble. J'ai aucune animosité envers mon député.
Avec votre opposition municipale, la dernière fois que vous êtes venu à ce micro, hein, c'était pour un débat avec Florence Bazoli, dont on connaît la personnalité. Comment ça s'est mis en place et aujourd'hui, que diriez-vous de votre opposition?
Ça s'est plutôt bien mis en place. Hein. Nous avons ouvert, comme je l'avais dit, hein, ils peuvent faire partie de chaque commission. Donc, c'est ce que nous avons fait. Après, ils viennent au conseil municipal, au conseil communautaire. Pierre Morin participe beaucoup. Hein. Il est présent aux inaugurations aussi.
Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est ce que vous attendez d'une opposition? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ou finalement, il y a toujours une opposition classique
Ils sont dans une opposition quand même. Je ne vais pas vous dire que j'ai réussi à les rallier à tout ce que nous faisons. Hein. Mais quand nous sommes au conseil municipal, il n'y a pas d'agressivité. Ils sont quand même à l'écoute. Ils votent beaucoup de choses. Ils fonctionnent quand même, avec un mot là aussi à la mode, avec bon sens. Hein, mais par moment, on est sur des franges où ils ne sont pas d'accord. Alors certaines fois, je ne comprends pas toujours leur vote. Mais ils ont sans doute leur raison. Hein. Moi, je trouve qu'on discute plutôt bien. Plutôt bien, bon. Mais c'est quand même pas... Ils ne sont pas dans la majorité.
Vos relations avec l'ancien maire de Bressuire, est-ce que c'est quelqu'un que vous contactez encore, à qui vous demandez conseil,
Jean-Michel Bernier, pour ceux qui auraient oublié qui il était?
Ah, je ne sais pas si on peut l'oublier en un an et demi, hein, mais oui, bien sûr que je le côtoie toujours, je l'appelle toujours. C'est un plaisir de discuter avec lui. Puis alors, je peux vous dire que je rigole même parce que certaines fois, il m'appelle pour me dire « Alors là, je sais pas, c'est là. Hein. Il faudrait quand même faire ça. » Il est allé à la Cité de la Jeunesse.
Un vrai citoyen.
Pardon ?
Un vrai citoyen.
Un vrai citoyen. Hein. Mais il a toujours un mot gentil. Hein. Vous voyez, il a fait un article récemment, là... où il a été très sympathique à l'encontre de la nouvelle équipe. Mais il a un regard, enfin plus qu'un regard, il a toujours un avis sur les dossiers bressurés. Et puis, j'en attendais pas moins de lui. C'est déjà, et puis c'est tout à fait normal. Et moi, ça me fait très plaisir.
Quand vous avez un doute, c'est vers lui que vous retournez?
Ça dépend des doutes que j'ai. Mais certains... Oui. Quand c'est politique, beaucoup. Quand il y a j'ai des questionnements politiques, oui, je l'ai appelé lui en priorité.
Vous avez découvert non pas la vie municipale, mais la fonction de maire à part entière, avec les responsabilités que ça implique. Est-ce qu'il y a des choses là au bout d'un an et demi qui vous étonnent vraiment, qui vous perturbe, ou finalement ça suit un peu le chemin que vous imaginiez?
J'étais quand même bien préparée parce que Jean-Michel Bernier, nous étions vus des années avant, hein, donc je me préparais à cela, et lui m'a, je l'ai toujours dit, beaucoup aidé dans ce sens-là. Hein. J'étais avec lui dans...
Ça a été hyper formateur.
Ah bah oui.
Vous n'avez pas été parachuté,
non.
Ce qui est sûr.
Non, ça c'est sûr. Il m'a accompagné, enfin c'est plutôt moi qui l'accompagnais dans les dossiers, mais je veux dire, lui m'a accompagné par sa formation. Hein. À la fin, j'étais à toutes les réunions. C'est sûr que je ne suis pas arrivée... même si la première semaine, on va dire, je ne me rappelle plus trop, mais le premier mois où je me suis retrouvée seule, parce qu'au départ, j'étais pas seule, il était encore là, vous savez, avec le Covid. Mais le premier mois où je me suis retrouvée seule, là, je l'appelais peut-être bien toutes les semaines pour lui dire, alors rappelle-moi quand même cette histoire-là, voilà. Mais ça, j'étais habituée. Mais ça me chagrinait déjà avant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Et je me rappelle, un jour, moi j'avais dit à Jean-Michel, tiens, sur les réseaux, parce que lui n'y était pas, il y est maintenant d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je lui ai dit, on a dit tel truc là sur toi, et puis il m'avait dit, faut plus me le dire parce que ça me chagrine en gros. Et moi, je disais, mais si, moi, j'aimerais bien savoir, au contraire. Et en fait, aujourd'hui, je suis dans la même position.
Vous êtes dans la nécessité de vous protéger.
C'est ça. Je regarde. Hein. Mais par moment, quand trop, c'est trop. Et c'est pas forcément moi hein, qui suis visée. Hein, mais c'est qu'il y a des choses que je trouve trop injustes. Et du coup, je dis, non, mais là, j'arrête. Je regarde plus. C'est fini. Donc, j'ai compris à ce moment-là ce que lui ressentait. Vous voyez, ça.
Mais vous êtes comme lui, vous êtes aussi une femme de terrain et vous allez forcément devant la population à son contact.
Ah oui, mais alors ça, c'est différent. Quand vous avez les gens en face de vous, c'est complètement différent. D'abord, quand vous les avez en face de vous, ils sont souvent beaucoup plus gentils, agréables, etc. Et puis autrement, si quelqu'un, moi ça m'est arrivé, hein, que les personnes m'invectivent presque, mais là, vous répondez.
vous répondez, vous êtes, et la personne du coup certaines fois quand même change d'opinion et puis vous écoute. Quand on vous met un quelque chose de très méchant sur Facebook ou autre, la réponse n'est pas la même. Si vous répondez par écrit, paf, vous en recevez encore d'autres choses derrière. Donc,
ce n'est pas votre faute, mais que répondez-vous aux gens qui disent que Bressuire n'est pas toujours une ville propre, c'est-à-dire que les poubelles, par exemple, débordent? Alors, c'est la faute des gens qui ne sont pas citoyens.
Mais ça reste un vrai sujet. Hein,
mais que pouvez-vous répondre à ces gens qui déplorent cette image?
Là, je suis en accord avec eux. Je le déplore, je le déplore. J'en parle plus que régulièrement à l'aglo. L'aglo, les services déchets en sont pleinement conscients. Ils ont mis en œuvre là toute une bataille de mesures encore. À partir du mois de juin, là, on va voir les résultats sans doute en septembre de ce qui a été fait. Mais je vois malheureusement encore qu'il y a des personnes qui ne respectent rien, mais rien de rien. Là, vous voyez, nous, à la ville de Bressuire, on vient de décider, même dans les communes déléguées, on paye encore, nous prenons à notre charge des passages en plus auprès des points propres des communes déléguées. Donc vraiment, il faut qu'on se pose des questions au niveau des déchets. Hein. Là, je leur réponds quand je les vois, les gens, oui, je suis d'accord avec vous. Alors, j'essaye d'amener ce qu'on essaye de faire et leur dire que justement nous sommes tout à fait conscients de ça et que nous mettons tout en œuvre là aussi pour essayer d'enrayer le problème. Mais
il faut être sévère encore plus.
C'est plusieurs choses à la fois, c'est toujours un peu pareil, hein. C'est-à-dire qu'il faut être sévère, il faut à la fois aussi donner tous les moyens possibles. Je vous donne un exemple, vous perdiez votre carte, il fallait payer 10 euros pour l'avoir. Bon, aujourd'hui on a dit tant pis, on la met gratuite, on la met dans tous les services pour que les personnes qui ont perdu leur carte puissent aller en chercher une autre et non pas se dire j'ai plus de carte, du coup je mets à côté. Voilà, c'est un ensemble de mesures. Est-ce que ça va suffire? Je l'espère, mais le doute est permis.
On se souvient justement des coups de colère de Jean-Michel Bernier. Est-ce que là, ça pourrait en être un de votre part? Et est-ce que vous avez un peu ce tempérament quelquefois?
Ah non. Là, c'est quand même une différence que nous avons. Je peux me mettre en colère, hein, c'est pas ce que. Mais mais Jean-Michel était quelqu'un qui peut s'emporter. Moi, je m'emporte beaucoup, beaucoup moins. Mais je peux dire les mêmes mots, en revanche. Mais je ne le dirai pas sur le même ton. C'est sûr, c'est une différence.
Cette émission, l'heure, je crois, déjà est presque passée. Pour conclure, le goût de la politique, Emmanuel Ménard, vous l'avez depuis longtemps. Est-ce que aujourd'hui vous êtes la première femme, on ne l'a pas redit, mais c'était historique, à la tête de la ville de Bressuire. Est-ce que ça pourrait vous emmener plus loin?
Je n'en suis pas là pour le moment. Je me plais dans ma ville, je me plais à l'aglo. J'aime quand même, c'est ce que Dominique Cadu disait, j'aime quand même le terrain. Après, on ne dit pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein. Je n'en sais vraiment rien. Je n'en serai vraiment rien. Je vis ce que j'ai à vivre. Je le vis la plupart du temps de façon heureuse. Donc c'est quand même important. Là. C'est là que l'individu, autant penser au bien public quotidiennement, mais y prendre du plaisir, c'est quand même nécessaire à mon sens. Donc j'y prends du plaisir, même si c'est de lourdes responsabilités, dont je suis bien consciente. Donc pour le moment, ces fonctions d'agglomération et de mairie me conviennent parfaitement. Je suis entourée d'une équipe formidable au niveau politique. Nous nous entendons à merveille. Et puis j'ai des services, que ce soit à l'aglo et à la ville, exceptionnels. Donc que demander de mieux pour
moi? La mesure du costume, comme je le disais dans notre bande-annonce, ou plutôt de la robe, vous l'avez pris pleinement déjà.
Je suis dans ma robe et j'y tiens.
Merci Emmanuel Ménard.
Merci à vous.
Aux deux Dominique.